Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ça y est, depuis une semaine, nous voilà enfin déconfinés. La fin d'un temps inédit pour chacun d'entre nous qui nous aura probablement marqué. Pour nous aider à en sortir, nous avons fait le choix de nous faire prendre par la main par un homme qui, lui, ne va pas sortir de sitôt, comme je le disais la semaine dernière, si je puis dire, le père abbé de l'abbaye bénédictine d'Ancalca. Quoi de mieux qu'un moine, en effet, pour nous aider à relire ce temps et nous donner à la lumière de la parole de Dieu, en l'occurrence l'évangile selon saint Marc, quelques conseils pour sortir plus sage de ce temps de confinement. Sortir du confinement avec le père abbé de l'abbaye d'Ancalca, c'est pour rappel donc le thème de trois émissions Vivante Église qui font suite à ce temps de confinement, en tout cas au début de la semaine. Nous étions avec vous la semaine dernière, frère David, vous êtes prêtre moine bénédictin et donc père abbé de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît d'Ancalca, dans le Tarn. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et vous êtes l'auteur donc d'un ouvrage qu'on a parcouru en partie la semaine prochaine, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf. Je le redis donc, ces trois émissions, le propos est d'avoir d'une certaine manière un spécialiste du confinement pour nous aider à prendre le temps de relire et à ne pas passer trop vite, même si on avait tous hâte de reprendre une vie plus normale, plus déconfinée, de ne pas passer au-dessus de ce temps que nous avons vécu. On va donc parcourir certains passages de l'évangile que nous avons choisi ensemble. L'évangile selon saint Marc est à la lumière de l'évangéliste et de ce qu'il dit de Jésus et de vos méditations. On en tirera des leçons pour nous. C'est aujourd'hui plus particulièrement sur la prière, puisque le sous-titre de l'émission est de l'isolement à la prière. On va commencer par parler un petit peu de vous, comme la semaine dernière, et un petit peu de Marc. À votre sujet, après vous avoir présenté la semaine dernière, vous nous avez dit donc que vous étiez un féru de lettres classiques, vous aviez été un temps artiste peintre avant d'être appelé par Dieu dans cette abbaye et élu donc abbé, père abbé en 2009 dans cette communauté qui compte une 44 frères. J'aimerais que vous nous parliez un peu de la vie bénédictine. Alors la vie bénédictine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc est issue de la règle de Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'était un moine au 5e siècle. J'ai vu que dans le fond, on pouvait résumer la vie bénédictine à la recherche de Dieu. Alors comment est-ce que vous présenteriez la vie bénédictine ?
C'est l'expression la plus traditionnelle, celui qui cherche Dieu. C'est comme ça que Saint-Benoît définit le novice. Est-ce qu'il cherche vraiment Dieu ? Il y a les deux mots qui sont là, chercher et vraiment, puis Dieu, le point d'interrogation par excellence. Il n'y a pas de moine qui ne soit pas d'abord un chercheur. Et chercheur, je crois qu'aujourd'hui, ça a retrouvé une certaine valeur, ce monde de la recherche, peut-être à cause même de la recherche scientifique. Être chercheur, ça vaut la peine. C'est une belle ambition pour un homme. Et donc, moine, oui. Chercheur un peu sur la limite, mais chercheur pour de vrai. Et l'objet même de cette recherche, je crois qu'il y a deux axes principaux pour un moine bénédictin. La vie de communauté, la vie fraternelle, parce qu'on est toute la journée avec des frères, en fait.
Et toute la vie.
Et toute la vie, mais au long des heures, au long des jours, sans jamais s'échapper. Et le deuxième point, c'est la vie intérieure. Ce qu'on appelle la vie de prière, avec à peu près 4 heures passées par jour à l'office, à l'église, à la messe, à l'oraison. Donc c'est dans ce qui est notre salon à nous, c'est notre église, où on est bien, où on aime aller, pour y chanter, pour y faire silence ensemble. C'est la vie intérieure, c'est le miracle de la vie intérieure. Donc au départ, ça paraît inconcevable. Moi, quand j'ai approché du monastère, j'étais persuadé, mais je ne tiendrai pas 3 jours à ce rythme-là. Il y a le sentiment que c'est une perte de temps phénoménale, qu'on va s'y ennuyer. Et c'est vrai, l'ennui fait partie de l'expérience spirituelle. Mais en même temps, à travers ce temps-là, il y a une percée, il y a une découverte, il y a une exploration, et c'est le monde même de Dieu qui est un monde intérieur, qui est un monde, qui est une dimension intérieure à chaque homme.
Si on revient juste à des considérations un petit peu plus générales, les bénédictins, vous n'êtes pas les seuls aujourd'hui en France. J'ai vu que ça avait connu donc un essor très important, alors ça on le sait un petit peu quand même, l'ordre bénédictin qui avait en France à la fin du XIIe siècle 2000 abbayes, et j'ai vu 100 000 monastères, même ai-je lu en Europe en tout cas à cette époque. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu de la vie bénédictine aujourd'hui en France? Il y a encore en France des abbayes bénédictines d'hommes, de femmes, avec la particularité d'être plus cloîtrées qu'ailleurs dans le monde, vous en parliez la semaine dernière.
Avec des nombres ridiculement faibles, puisqu'il y a peut-être vivant de la règle de Saint-Benoît, ça inclut les trappistes, les cisterciens, ce sont des familles de moines bénédictins, si on peut dire, hein, avec des réformes successives de l'ordre, mais c'est la même spiritualité. Donc je pense qu'il y a peut-être 30 monastères d'hommes, Et un peu plus de monastères féminins qui vivent de cette règle.
En France, donc.
En France. Mais effectif tout confondu, on n'atteint pas le millier. Hein. S'il y a 800 moines et moniales en France aujourd'hui, je crois que c'est un maximum. Et donc ça dit la pauvreté de ce petit troupeau résiduel par rapport au Moyen-Âge.
Oui, parce que 100 000 monastères, on imagine le nombre de moines que ça faisait derrière. Alors on pourrait parler d'une devise, en tout cas d'une autre expression que l'on connaît des bénédictins, c'est ora et labora, puisque vous priez mais vous travaillez aussi. J'aimerais plutôt que vous insistiez vous reveniez peut-être sur ce que dit votre règle sur la clôture, puisqu'aujourd'hui on a comme sous-titre d'émission de l'isolement à la prière. Qu'est-ce que dit exactement la règle de Saint-Benoît à propos de la clôture?
Alors elle dit que le monastère est l'atelier où on mettra en œuvre les outils de l'art spirituel, les instruments de l'art spirituel. Cette clôture, c'est ce qu'on pourrait appeler fuir la fuite. Ce que fait le moine de plus radical quand il fait profession de vie monastique, c'est de dire « je vais arrêter de fuir ». Je vais arrêter de m'enfuir et d'être tout le temps dans le zapping et de passer d'une situation à l'autre, d'une carrière à l'autre, d'un projet à l'autre. Je vais m'arrêter, c'est tout. Je fuis la fuite, c'est ça la clôture. Je m'enracine. Je deviens un tout petit peu moins animal et un peu plus végétal. Je décide que je vais prendre racine.
Il y a aussi, c'est une chose que j'avais entendue, une réalité de la vie bénédictine ou la vie monastique qui y contribue, si j'ai bien compris, c'est que vous n'avez plus d'autres projets quelque part, une fois que vous êtes rentré, personnel, que de, enfin normalement, si j'ai bien compris, que de rester dans le monastère et de vivre cette vie. Vous ne pouvez pas dire demain je vais déménager, faire des travaux, changer de métier.
Ça inclut vraiment l'idée de usque ad mortem, jusqu'à la mort. Alors c'est très très malvenu aujourd'hui parce que la mort, c'est vraiment pas le projet. Le moine, une des premières expériences qui touche un jeune moine, c'est de voir mourir un ancien. Parce que ça n'arrête pas, c'est normal. C'est absolument normal puisqu'on vit toute génération confondue jusqu'au bout dans le même lieu. Donc on n'est pas là depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 1 an, qu'un des anciens s'en va. Et ça va se répéter chaque année au rythme de 2 fois par an, 3 fois par an. Si bien que le contact avec la mort, pour le moine, au début, c'est surprenant parce qu'on n'a que 2 grands-pères et 2 grands-mères. Donc on n'est pas tellement habitué à accompagner ses grands-parents au cimetière. Pour le moine, non. Chaque année, il va aller au cimetière avec un frère ou avec un autre. Donc la mort est absolument présente dans l'horizon. Ce qui est une des dimensions, je crois, qui, pendant ce temps de pandémie, a été très neuve et difficile à vivre, ce rapport à la mort.
On va parler un petit peu de Marc maintenant pour continuer de le présenter. La semaine dernière, vous l'avez présenté de manière générale. On a donc compris que c'était un jeune homme au moment où il a écrit l'Évangile. Le récit donc de la vie de Jésus, que c'est le premier à l'avoir écrit, qu'il était issu d'une famille juive aisée, avec sa maman donc, qui s'appelait Marie de Jérusalem, en tout cas c'est comme ça qu'elle était surnommée. Pour ça, vous êtes arrêté donc sur un passage, c'est dans les Actes des Apôtres, j'en perds mon stylo, chapitre 12 de l'acte, des Actes des Apôtres, donc verset 1, à, je crois, à peu près 17. Donc, Pierre est en prison. Il a été donc fait prisonnier par Hérode, qui se félicite de cela parce que ça fait plaisir à certains juifs. Et il arrive à s'échapper de la prison parce qu'un ange le délivre. Et ensuite, il va donc chez Marie. Il est dit, dans, en tout cas dans la Bible de Jérusalem, la traduction est la suivante, et 7 ans... reconnu, alors il y a une servante qui le reconnaît. Pierre se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priée. Vous suggériez, pour faire connaissance avec Marc, de parler d'un choc, puisque c'est le sous-titre, c'est le titre de votre livre, Marc, l'histoire d'un choc, du choc de la prière. Pourquoi ?
Choc de la prière, c'est pas forcément le choc, c'est celui que Marc éprouve ce jour-là. Et je pense qu'il a 15 ans, 17 ans, peut-être 20 ans, mais il est chez sa maman, donc c'est encore un tout jeune homme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pierre a été emprisonné. Il va mourir. On est à la veille de la Pâque. Ça réplique exactement la situation de Jésus dans la même situation quelques années plus tôt. Hérode, et c'est encore un Hérode, c'est pas le même, mais il s'appelle toujours Hérode, et l'a fait emprisonner et il va y passer. Sauf que toute l'Église est en prière. Toute l'Église, c'est pas grand monde, c'est les petites équipes de chrétiens là, qui se sont groupées autour des apôtres et qui sont dans la ville sainte. Et qui, Pierre, c'est le chef de l'Église, c'est celui qui guide les autres, et le voilà emprisonné, il est fichu, il va y passer. Et la Pâque approche. Mais toute l'Église est rassemblée dans la maison de Marie. Alors Marc, il a 15 ans, mais il voit ça autour de lui. Tiens, tous les copains de maman sont venus, la maison est pleine de gens qui prient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis au matin, il y a l'histoire absolument incroyable. C'est là qu'est le choc, c'est que quelqu'un frappe à la porte, la servante y va. On connaît son nom, c'est dire l'importance de l'histoire. Elle s'appelle Rodée. Bon, si on a retenu son nom, c'est parce que cette histoire a été d'une importance capitale. Alors que la petite servante, on la reverra plus jamais. Mais ce jour-là, on frappe à la porte et elle reconnaît la voix. Et elle dit, mais c'est Pierre. Et elle est tellement aux 400 coups, parce qu'elle sait qu'il est en prison, parce qu'on est en train de prier pour lui, parce qu'il va y passer... Elle est tellement émue qu'elle retourne dans la maison pour dire « Il y a Pierre qui est à la porte !» Mais elle ne lui ouvre pas. Et lui continue à tambouriner sur la porte.
On lui dit « Tu es folle !»
Tu es folle hein, parce qu'il
et
est
après, en... après, il dit d'ailleurs « C'est un ange !»
Et voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est que brusquement, Pierre est sorti de prison. C'était inexplicable. Et le choc est terrible. Et aussitôt, Pierre s'en va. Aussitôt, il quitte la maison, il fait comme Jésus, il est apparu et puis il a redisparu, il est parti voir Jacques et les autres et prévenir les autres. Bon, qu'est-ce que c'est cette délivrance miraculeuse ? Mais toute la nuit, les gens étaient restés en prière dans la maison de Marie. Et le jeune Marc, son premier rapport à l'histoire chrétienne, c'est cette affaire-là. On a prié toute la nuit et puis au matin, il y a Pierre qui est apparu.
Eh ben on va en parler de la prière au long de cette émission. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver. On va parcourir un passage donc de l'Évangile selon Saint Marc, Marc chapitre 11, versets 12 à 25. C'est donc le passage où Jésus entre dans le temple de Jérusalem. Et avant et après, il y a une histoire de figuier. On fait une courte pause musicale et on vous retrouve. Je rappelle le titre de votre livre, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf.
Yeah. Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sortir du confinement avec le Père Abbé dans Calca, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec vous, Frère David, vous êtes prêtre, moine bénédictin et Père Abbé donc de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît, dans le Tarn, auteur d'un ouvrage, Marc, l'histoire d'un choc paru aux éditions du Cerf. Comme promis, on va donc parcourir un passage de l'évangile selon saint Marc, puisque c'est avec lui, en même temps que vous, qu'on essaye de prendre ce long temps de relecture à la faveur de ces trois émissions, la semaine dernière, cette semaine, et puis on vous retrouvera la semaine prochaine, lundi prochain. Donc l'évangile selon saint Marc, chapitre 11, versets 12 à 25, c'est donc un passage où il est question d'un figuier, et puis entre les deux, Jésus qui a fait un court passage dans le temple après avoir été acclamé dans son entrée à Jérusalem, va chasser donc les marchands du temple. Alors c'est difficile de lire ce passage comme pour les autres parce que l'émission ne s'y prête pas forcément. Charge à vous peut-être de nous citer certains passages ou alors je le ferai. Il y a un point sur lequel je voulais m'arrêter pour commencer. Peut-être faut-il recommencer un petit peu plus en amont, aller un tout petit peu avant ce passage. C'est le fait que Jésus rentre dans Jérusalem sur un ânon. C'est une chose qu'on a déjà entendue quand on est chrétien, quand on est habitué peut-être à parcourir certains textes ou qu'on va à la messe. Pour vous, c'est important parce que ça dit quelque chose de la manière dont Dieu se manifeste et il ne faut pas s'attendre à autre chose dans une vie de prière. Expliquez-nous.
Alors certainement que ce signe du petit âne, là, de l'ânon, le roi messianique qui finalement est un pauvre roi, hein. C'est comme ça que Jésus entre à Jérusalem et va entrer dans le temple. Ça nous dit quelque chose effectivement de la manifestation même de Dieu. Tout nous montre dans le texte de Marc que ce qu'on appelle le triomphe, l'entrée triomphale à Jérusalem, les rameaux, ça a été un petit signe, je ne dis pas invisible, mais les disciples même diront « on n'avait pas compris ». Jean l'écrira en toutes lettres dans son dernier évangile. « On n'avait pas compris que c'était le roi qui entrait à Jérusalem ». C'est qu'après, en relisant, en découvrant les prophéties de Zacharie. Il nous a fait faire l'entrée à Jérusalem.
Dans votre commentaire, vous laissez même entendre qu'il n'y avait peut-être pas tant de monde que ça. C'est-à-dire,
pas une seule fois.
Faut pas imaginer qu'il y avait toute la ville qui l'acclamait.
Non, il n'y a même pas le mot foule. Pas une seule fois le mot foule. Il y a quelques disciples agités autour de Jésus.
Ça c'est dans l'Évangile selon saint Marc.
Et même les autres n'en font pas une énorme chose. Ça reste un signe discret. Je pense qu'on ne peut bien resituer toute cette affaire-là qu'en se rappelant, et pour ça on a besoin des historiens les plus profanes du monde profane, qu'est-ce que c'était que le temple à Jérusalem à l'époque de Jésus ? C'était monumental.
Mais gigantesque en fait,
gigantesque, c'était monstrueux.
1,5 hectare, c'est ça, de bâtiments, je crois ?
15 hectares.
Alors je pensais avoir mal lu justement.
Ah non, c'est 15 hectares
de bâtiments.
Mais oui, c'est immense, le temple de Jérusalem. Bon, si vous avez un tout petit peu de curiosité, vous allez simplement sur YouTube et vous tapez « Temple de Jérusalem, reconstruction, maquette, simulation, temps de Jésus ». Vous allez voir, c'est époustouflant. Mais Flavius Josèphe, au 1er siècle, en historien profane du monde antique, dit déjà, mais c'était la septième merveille du monde, le temple de Jérusalem. C'était époustouflant. Même les Romains en avaient le souffle coupé de voir ça. D'abord par le luxe, avec du marbre blanc, un monument de marbre blanc plaqué d'or qui se voyait à des kilomètres. Et puis, il n'y a pas seulement ça, il y avait 100 000, 200 000, 300 000 personnes sur les esplanades, sur les parvis, pour les fêtes. Il fallait que tout le peuple d'Israël puisse se rassembler pour les fêtes. Ça suppose des centaines de milliers d'espaces libres pour les gens. C'était une foule considérable. Et ça nous dit ce que le judaïsme au 1er siècle, à l'époque de Jésus, était devenu et qui était sidérant. C'est-à-dire une religion du temple. Une religion du temple parce qu'au temple avaient lieu les sacrifices. Et ces sacrifices, c'était aussi Des cérémonies époustouflantes.
Alors si on revient juste à l'anon, qui est le signe dont Dieu agit, et si on revient au thème de la prière, qui est donc le fil rouge de cette émission, à vous entendre, il ne faut pas s'attendre à ce que la vie de prière soit comme une vie de cinéma en trois dimensions, avec une foule autour de soi. Ça ressemble plutôt à l'anon, en fait.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de dire ce que Jésus va, au fond, découvrir en découvrant le temple. Il faut se rappeler que Marc écrit pour des Romains, des gens qui n'ont pas vu le temple, qui en ont entendu parler, mais qui n'ont pas vu. Et donc, il ne va pas compliquer les affaires. Dans son évangile, le temple, on le découvre au chapitre 11, avec cette scène de l'annon, de l'entrée à Jérusalem.
Parce que dans l'évangile selon saint Marc, c'est la seule fois où Jésus
C'est la première fois. Alors que tout bon juif montait à Jérusalem pour toutes les fêtes. Donc en fait, Jésus, il est déjà allé au temple. Luc racontera que dès l'enfance, il monte au temple. Parce qu'avec ses parents, il faut monter au temple. C'est le judaïsme. Mais vu de Rome, c'est trop compliqué d'entrer dans cette histoire-là. Ils ne vont pas comprendre. Donc c'est au chapitre 11 que Marc montre la première prise de conscience par Jésus de ce qu'est le temple. Et le hiatus est énorme entre ce qu'il voit, qui est une espèce de forum des halles dans toutes les dimensions, avec du commerce partout, du change, des bestiaux, des marchés aux colombes, une foule bigarrée de tous les côtés, tous les commerces du monde sont là. Et lui, il entend la phrase d'Isaïe, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. »
Alors, dans votre commentaire, donc entre autres, vous aussi, vous revenez un petit peu en arrière. Vous arrêtez sur un passage donc, de l'Évangile selon saint Marc, sur lequel on passe probablement un peu rapidement. « Il entra à Jérusalem dans le temple, et après avoir tout regardé autour de lui, donc il est dans le temple et il jette un regard circulaire, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie, avec les 12. Et puis après, donc, il y a ce passage sur le figuier stérile, on y reviendra peut-être. Et puis le lendemain, donc, il revient dans le temple, et là, c'est le fameux épisode où il chasse les marchands du temple. Pourquoi est-ce que vous faites ce mouvement, en fait, à vous lire, Vous dites que, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, Jésus a eu un choc, il aurait fallu presque une nuit pour qu'il s'en remette.
Oui.
Qu'est-ce que ça dit aussi, peut-être, de la vie de prière ?
Ben, ça dit que Jésus, en découvrant le temple, dans la façon dont Marc nous fait progresser avec Jésus, il y a une espèce de choc pour Jésus lui-même, de dire « mais mon père, c'est pas ça, la maison de mon père, mais c'est pas ça ». Il s'y retrouve pas du tout. Quand il voit cette histoire-là, il n'y a plus qu'une solution, rebrousser chemin. Et il s'en va à Béthanie avec les disciples comme il est venu. Ça a été juste une petite percée. Et quand il revient le lendemain, il va foutre tout le monde dehors.
Parce qu'il
va taper sur la table.
Il y a aussi eu un changement entre ce moment dans le temple et son enfance. Vous dites aussi que en l'an 30... Il y a eu une décision importante, ça aussi c'est quelque chose qu'on sait peu.
C'est les historiens qui disent ça, oui. On découvre qu'en l'an 30, les familles des grands prêtres, qui étaient évidemment très intéressées à tous les dividendes qu'ils touchaient à travers le temple, puisqu'il y avait des services d'offrandes, le commerce des bestiaux, des colombes, l'échange, etc. On ne pouvait acquitter une offrande, un sacrifice, demander, acheter une bête, qu'avec la monnaie précise de Jérusalem. Donc il y avait des changeurs partout, parce qu'on arrivait avec des drachmes de Chypre, du monde entier. Donc il y avait toute une activité bancaire autour du temple qui était florissante depuis, pas seulement au 1er siècle, ça fait des siècles que le temple est une banque. Les premières banques du monde, ça a été les temples païens.
En tout cas, c'était à l'extérieur du temple et en l'an 30, les bestiaux, les banques de bestiaux étaient à l'extérieur.
Parfait, vous me
ramenez
au
monde des
oliviers. Sujet. En l'an 30, les grands prêtres décident que le marché aux bestiaux s'amène au parvis des gentils.
Qui était comme le portail d'entrée, on va dire.
Un portail avec une zone d'accès où pouvait aller tout le monde.
Et les gentils, c'est les non-juifs.
Oui, exactement. Et donc...
Donc Jésus a certainement eu le choc, peut-être, de...
Encore plus, de voir...
De voir un marché aux bestiaux
dans le temple. Un marché aux bestiaux à la porte du sanctuaire, quoi, du lieu le plus saint. Dans le temple, il y a plusieurs enceintes. Il y a ce qu'on appelait les parvis, les colonnades, et puis il y a le saint et le saint des saints. C'est-à-dire qu'il y a une intériorité croissante et on sait très bien que le Saint des Saints, le débir, la salle la plus noble de tout le temple, c'est une pièce vide où derrière le rideau du temple, il y a l'arche, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on y fait ? Il n'y a que le grand prêtre qui entre. C'est un lieu inaccessible.
Si on continue la méditation sur la prière, donc la première chose à vous entendre, c'est que il y a comme un renversement dans la vie de prière, puisqu'il ne faut pas s'attendre à découvrir un Dieu autre qu'un Dieu qui marche sur un anon, donc en fait qui fait peu de bruit, qui est difficile à reconnaître. Est-ce qu'on peut lire aussi dans ce passage d'évangile ou ce choc que Jésus a eu en rentrant dans le temple, le fait que plus on rentre dans la vie de prière, plus aussi on découvre, on regarde le monde avec d'autres lunettes, et il y a des choses qui nous sautent aux yeux, qui nous choquent, est-ce que c'est... Un peu tiré par les cheveux ou
Ce qui me paraît plus central, c'est pour Jésus, et en fait, un mouvement qui le précède lui-même, Jésus, c'est la prise de distance du judaïsme de son époque, et déjà depuis 2-3 siècles, par rapport au sacrifice. C'est-à-dire que le judaïsme, c'était aussi un judaïsme à Alexandrie, un judaïsme à Antioche, c'est-à-dire des colonies juives en déportation, on dirait, à Babylone, etc. Donc, le temple était plus loin. Et dans ces lieux plus éloignés de Jérusalem, plus éloignés du temple, on ne pouvait pas offrir de sacrifice. Donc, une religion spirituelle s'était mise en place. Une religion spirituelle, c'est-à-dire une religion où la prière était une relation verbale avec le chant des psaumes, avec la liturgie de la synagogue, la lecture des prophètes. Ça, c'était la dimension, finalement, la plus sacrée, c'était la parole. Et ça s'est développé à Babylone, ça s'est développé à Alexandrie, à Antioche, à Rome, dans tous les lieux où les Juifs avaient été dispersés après l'exil depuis plusieurs siècles. Et donc, Jésus est héritier de ce mouvement-là. Et au fond... quand il tape du poing sur la table en chassant les marchands, il abolit les sacrifices. À avec quelques années d'avance, puisque le temple de Jérusalem, on sait que c'est en 70 qu'il va être rasé, ruiné, avec la guerre contre les Juifs menée par Titus. Titus entre avec les armées, on saccage la ville, on incendie le temple, on nivelle la colline même pour qu'il n'y ait aucun reste de ce lieu de sacrifice, tant il était objet de fascination pour le judaïsme du monde entier et d'admiration de la part des non-juifs.
Dans votre commentaire, vous vous arrêtez sur une phrase, « Il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple ». Donc on sait que Jésus, dans ce passage, donc, chasse les marchands du temple. Ce que vous dites aussi, c'est qu'on peut imaginer que c'est peut-être passé plus inaperçu que ce qu'on imagine, tant c'était gigantesque.
Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes, voilà, c'est la Pâque.
Donc il n'a pas chassé tout le monde. En tout cas, c'est revenu aux oreilles des grands prêtres, ça, vous en faites mention. Et donc, il y a un passage, une phrase sur laquelle on peut passer rapidement. « Il ne laissait personne transporter d'objets à travers le temple ». Vous en tirez une méditation. Vous dites que ce Dieu qu'on découvre dans la prière, c'est celui qui nous fait passer de l'objet à la relation. Expliquez-nous.
Ça, c'est très important. L'écho qui en est donné dans l'évangile le plus fort, c'est l'évangile de Jean. On sait que dans l'évangile de Jean, l'épisode du temple, au lieu d'être présenté à la fin de l'évangile, juste avant la passion, ces vendeurs chassés du temple, c'est au chapitre 2 de l'évangile de Jean. C'est une scène inaugurale. C'est inaugural parce que tel est le programme que s'est donné le Christ. Purifier le temple, le vider de ce rapport aux bestiaux, au sacrifice, à l'objet. Et dans l'évangile de Jean, il y a cette phrase de Jésus, « Enlevez-moi tout ça d'ici, chassez-moi tout ça d'ici, faites partir tout ça. » Parce que la maison de prière, c'est une maison de relations, c'est une maison de personnes. Et on en a fait une affaire d'objets, d'argent, de trafic, de choses, de bestiaux. Voilà, c'est plus... La prière, non, c'est le monde des personnes. La prière, c'est la plus grande simplicité possible, puisque c'est chaque être en face de Dieu capable de s'adresser à lui, avec des mots, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des bestiaux, de faire des sacrifices sanglants, d'acheter des colombes. Ça, c'est des tarifications qui encombre la religion.
Est-ce qu'on peut imaginer que ça a quelque chose de déstabilisant,
complètement,
de plus avoir de prise quelque part ou de...
Alors, à la fois déstabilisant personnellement, parce que chacun doit vivre cette relation personnellement, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On est en prise directe avec le Père. Chaque fois que je dis notre Père, je m'adresse à lui. Je m'adresse à lui vraiment. J'ai pas de prêtre entre lui et moi. J'ai personne pour faire la médiation. Je peux prier tout seul. Alors ça, c'est déstabilisant, mais à l'époque de Jésus, c'est évident que ça devient une affaire hautement économico-politique, puisque toute la tribu des grands prêtres, les Sadducéens, tout le monde qui vit du temple, et c'est pas peu de monde, c'est de grandes familles sacerdotales, tout ce monde-là, évidemment, est mis en péril par l'attitude de Jésus.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver, on va parcourir un autre passage de l'évangile selon saint Marc, ça sera le chapitre 14, versets 32 à 42. Cette fois, c'est Jésus qui est à Gethsémani. Et la fine pointe de ce commentaire, vous nous direz, qui parle aussi de la prière, c'est que Jésus désire nous faire franchir, vous dites, le presque rien infranchissable entre nous et le Père. Je rappelle le titre de votre livre, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sortir du confinement avec le père abbé de l'abbaye d'Ancalca, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec vous, frère David, vous êtes prêtre moine bénédictin, et donc le père abbé de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît, dans le Tarn, auteur d'un ouvrage, marque l'histoire d'un choc paru aux éditions du Cerf. Comme promis, ce qui n'empêchera pas peut-être de revenir sur d'autres points qui vous tiennent à cœur, on se plonge dans un autre passage, donc de l'évangile selon saint Marc, toujours avec comme idée d'essayer de relire peut-être le temps de prière ou la vie de prière qu'on a eu davantage à l'occasion de ce temps de confinement, ou la prière qu'on a découvert pour la première fois ou sous un autre jour. Ce passage de Jésus à Gethsémani, c'est donc le chapitre 14, versets 32 à 42. Pour ceux qui ne connaissent pas par hasard, c'est donc ce moment où Jésus est au jardin des Oliviers, moment d'angoisse où il s'adresse à son Père et où se joue dans son âme donc un acte de confiance immense, et puis ses allers-retours donc vers les apôtres qui dorment et qui ont du mal à prendre la mesure de ce qui se joue. Vous pourrez donc librement choisir la citation de certains des passages. Pourquoi est-ce que vous avez pris des passages qui sont très différents? Jésus qui rentre dans ce temple immense, dont vous disiez 15 hectares, cette espèce de monument, et qui paraît en fait sidéré presque par ce qu'est devenu la maison de son père. Et puis là, c'est tout à fait autre chose. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce deuxième passage pour nous parler de la prière?
Parce que statistiquement, quand je regarde le mot prier, prière, il n'y a pas de lieu plus fort, plus dense que Gethsémani, c'est-à-dire le jardin des Oliviers. Il n'y a pas de moment où le mot revienne avec une telle obstination. Donc c'était impératif de passer par là. En même temps, la séquence du temple tout entière, elle nous parle de la prière. Elle nous dit, mais qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en face de Dieu, et quoi lui dire, et pourquoi, comment? Donc ces deux moments tellement différents dans la géographie, justement, ils sont déjà tout un enseignement. Jésus, au temple, ne dit pas le dernier mot de la prière. Il en dit l'espèce de contrefaçon. Et à Gethsémani, là, c'est vraiment le témoignage ultime, c'est le testament de Jésus. Pour moi, c'est très important d'aborder un texte comme Gethsémani, c'est-à-dire un texte du récit de la Passion, parce que le récit de la Passion, les chapitres 14 et 15 de l'évangile de saint Marc, sont le noyau dur de l'évangile. Dans tous les évangiles, ce noyau dur de la Passion, c'est le plus identique dans les quatre textes. Or, ça commence avec Gethsémani. Et il y a un paradoxe dans notre vie de chrétien aujourd'hui, de chrétiens qui, même les plus pratiquants, ceux qui vont à l'église chaque dimanche, écouter la parole et tout ça, quel est le paradoxe? C'est que le récit de la Passion, ces deux chapitres qui sont le noyau dur de l'évangile, on ne les entend qu'une seule fois dans l'année, le dimanche des Rameaux et de la Passion, où on nous lit intégralement, on connaît bien ce moment très fort de la vie liturgique, avec une lecture à plusieurs voix souvent, de ce récit de la Passion. Et puis on va le relire dans la version de saint Jean, le Vendredi Saint. Et puis ce sera fini pour toute l'année liturgique, on n'entendra plus jamais parler de Gethsémani, plus jamais parler du reniement de Pierre, plus jamais parler du procès devant Pilate. Donc ces textes-là, ils sont... C'est de l'explosif puissance 10, et c'est fait pour les temps de crise. Les textes de la Passion sont faits pour les chrétiens, pour qu'ils aillent y puiser quand vraiment il y a crise. Ce sont des textes dangereux, mais très denses.
C'est de fait ce qu'on a tous un petit peu fait, puisque ce temps de confinement ou de pandémie a eu lieu à l'occasion donc, du carême et de la Pâque pour nous chrétiens. À propos donc du commentaire que vous faites de l'évangile selon saint Marc, vous insistez, ça c'est un petit peu connu des chrétiens, donc sur le fait que Jésus s'adresse à son Père directement, et que nous, comme les apôtres qui peut-être l'entendaient, même de loin, s'adresser à Dieu, on est témoin de ce qu'est réellement le cœur de la prière. Et puis après, puisqu'il s'adresse à son Père, même en utilisant ce mot « Abba », vous y reviendrez certainement. Mais vous insistez aussi sur le fait que Jésus passe son temps à faire des allers-retours entre son Père et les disciples, chose peut-être sur laquelle on ne se serait pas forcément arrêté. Vous dites il est obstinément en relation avec son Père et avec les disciples, comme si, alors ça c'est moi qui utilise l'expression, il essayait de joindre les deux bouts.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui se passe. La présentation de Marc est extraordinairement théâtrale. C'est du film, c'est de l'espace qui nous est rendu palpable. On voit Jésus qui s'éloigne un peu, et puis qui revient, et puis qui s'éloigne à nouveau, qui revient. Et une troisième fois, nous dit le texte, il s'en va encore un peu à l'écart et il revient vers les disciples. C'est-à-dire que ce va-et-vient de Jésus, le texte le souligne à très gros traits pour nous montrer, vous voyez, Jésus est là entre eux, cette prière solitaire, personnelle, où il répète toujours la même chose, « Abba, mon père, Abba, mon papa ». Quelque chose de très intime. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les trois qui l'ont suivi, les trois qu'il a pris avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ben, ils dorment, ils n'en peuvent plus, ils sont crevés, ça fait des nuits qu'on est là à guetter qu'est-ce qui va se passer, on sent l'adversité autour de Jésus, sans doute qu'ils dorment peu, ben, ils sont claqués, ils dorment. Mais Pierre entend, Abba, la prière de Jésus, il l'a entendue comme dans un demi-sommeil. Et ce qui nous éclaire, mais remarquablement, c'est ce qu'on appelle le discours après la scène. Chez Saint Jean, il n'y a pas le jardin des Oliviers, ou du moins il est mentionné, mais on a, après le dernier repas, trois chapitres où Jésus parle avec les disciples en essayant de leur faire comprendre encore, encore et encore. Mais Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. C'était un évangile récemment. On a entendu ça pendant le temps pascal. Mais qu'est-ce qu'il essaye de transmettre? Il essaye jusqu'au bout de transmettre à ses disciples le cœur du cœur de ce qu'il est venu nous dire. Le Dieu, c'est votre Père. C'est aussi simple que ça, mais ça va vous changer la vie si vous y croyez vraiment que Dieu, c'est votre Père. Parlez-lui comme à votre Père.
Alors vous appelez ça le presque... Jésus essaie de nous faire franchir le presque rien infranchissable.
Infranchissable parce qu'il faut l'Esprit Saint pour y entrer. Et c'est sur la croix que l'Esprit sera donné. Jésus remet son Esprit. Alors, dans notre histoire de l'Évangile, c'est la Pentecôte. C'est tout ce temps un petit peu mystérieux qui suit la croix et la passion, ce temps du choc. Le temps du choc, il est incompressible. C'est un temps pendant lequel on ne comprend rien. Et puis, des petites lumières arrivent, et c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. On commence à comprendre. Bon sang, mais il avait dit ça. Et puis, l'Écriture nous dit ça. Et puis, alors, mais... Voilà, c'est l'expérience même du chrétien de découverte que toute cette parole avait un sens et qu'il n'y a pas un mot de Jésus qui soit resté sans ouvrir des horizons pour la vie la plus banale, la plus quotidienne. C'est ça la prière.
L'autre point sur lequel vous insistez, on finira par ça pour cette émission, vous parlez de l'aveu de faiblesse, du besoin d'un autre, de la sécurité en même temps qu'apporte la prière. Vous pensez quoi là? Vous pensez à Jésus?
Oui, je pense d'abord à Jésus.
On regarde Jésus, c'est ça?
Oui, d'abord Jésus, c'est absolument fantastique de penser que le premier écrit qui nous parle directement de Jésus, donc Jésus qu'on reconnaît comme le Christ, le Fils de Dieu, le Messie qu'attendait Israël, cet homme-là, on nous le montre dans une situation de faiblesse totale à Gethsémani. Un homme qui est angoissé, un homme qui a peur, un homme qui pleure toute cette pauvreté du Christ, rien ne nous est caché. Ben ça, c'est le prodige de la croix. À partir du moment où Jésus a été crucifié, il n'y a rien de la faiblesse de cet homme qui ne nous sera épargné. C'est-à-dire qu'on le reconnaît vrai homme et vrai Dieu. Ça veut dire que de la même façon qu'il s'est présenté roi sur un petit âne, il se présente au moment de la mort, pas comme un surhomme, pas comme un héros, mais comme un pauvre, comme celui qui va y passer, qui est angoissé, et qui aimerait que ça, pas tout de suite, si cette coupe pouvait passer loin de moi.
Et qu'est-ce que ça change à notre vie de prière, alors ?
La proximité. Dans notre prière, on n'est jamais seul. Il y a toujours le Christ qui vient avec le chrétien. Il vient lui souffler à l'oreille, « J'ai pas envie de tes mots fabriqués, j'ai envie de tes mots de ta pauvreté, de ta faiblesse. Si tu me dis tes limites, là je vais les écouter. »
C'est-à-dire que paradoxalement, en fait, la sécurité dans la prière, c'est de savoir quelque part la pauvreté de Jésus, c'est ça ?
Oui, que Jésus dans cette pauvreté rejoint la nôtre, et donc la nôtre, elle peut se dire dans la prière sans aucune espèce de scrupule, de fausse honte, on n'a pas à se cacher. On a avoué qu'on est un pauvre homme. Et puis c'est tout. C'est ça la vraie prière. C'est d'accepter cette situation de pauvreté où Dieu voit. Et puis il y a une magnifique histoire hassidique qui parle de la prière. C'est le psaume 108, un verset. Oui, psaume 108, verset 4. « Et moi, prière », dit le texte hébreu. David dit « Et moi, prière », c'est-à-dire « je suis prière, je ne suis que prière ». Je crois que c'est ça notre traduction, « je ne suis que prière ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le sage commente en disant « qu'est-ce que ça veut dire ?» Ben, c'est comme le mendiant qui se présente à la porte en lambeaux avec une faim de 3 jours. Il n'a pas besoin de parler, il suffit de le regarder et on comprend qui il est. C'est ça la prière, « je ne suis que prière ». Être tout entier, cette pauvreté, cette soif, que l'on est devant Dieu.
Je vous propose à la fin de cette émission de revenir sur la question de l'intériorité. Ça vous tenait à cœur, vous en avez parlé au début de l'émission. Quand on a continué de faire connaissance avec vous, alors la semaine dernière, donc on dressait à grands pas votre profil. Là, on parlait un petit peu de la vie bénédictine. Vous expliquiez quel est le sens de la clôture. Vous avez, je crois, utilisé l'expression on choisit d'arrêter de fuir. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter sur la vie intérieure ?
Alors, sur la vie intérieure, parce qu'il me semble que c'est une dimension universelle, la vie intérieure. Voilà. Autant la vie de croyant, confessant, catholique, priant, ce sont des choses, des dimensions qui sont... Bah, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Mais la vie intérieure, tout le monde l'a. Tout le monde a cette possibilité d'entrer en lui. Seulement, c'est la métaphore de la perceuse. Chacun a déjà tenu en main une perceuse électrique pour faire un trou, pour accrocher un putain de cadre sur une cloison, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la perceuse marche ? Il ne faut pas bouger. Si on n'est pas à l'équerre parfaitement immobile, il n'y aura jamais de trou. Ça va partir dans tous les coins, mais il n'y aura jamais de trou. La vie intérieure, il faut un certain nombre de contraintes et un certain nombre une certaine puissance, une certaine force pour faire le trou, pour que la vie intérieure s'amorce. À partir du moment où le trou est fait, il s'agrandira toujours plus.
Et alors, c'est quoi quelle est la perceuse ? C'est le choix de la prière, c'est ça, justement ?
C'est que cette situation de confinement, elle nous a tous obligés d'arrêter de fuir pendant un temps. On a tous été mis là avec nos limites. C'est accepter des limites. Si on n'accepte pas des limites, on sera toujours des adolescents. Mais accepter des limites, même sous la contrainte la plus détestable qui soit, personne n'a envie de ce virus et personne ne voudrait le voir se prolonger. Mais ces contraintes-là, elles nous permettent une espèce d'à-coup vers la vie intérieure, une percée qui est un réel avantage, un réel pas en avant.
Eh bien, merci de nous avoir accompagnés encore ce matin pour ce temps de relecture, donc de ce temps de confinement où on a essayé de parler justement de la vie intérieure et plus particulièrement de la prière. Et je rappelle le titre de votre livre « Marc, histoire d'un choc » paru aux éditions du Cerf. On pourrait aussi citer un autre ouvrage que vous avez écrit, paru celui-là aux éditions Albin Michel, qui s'appelle « Âme sœur » au singulier « Âme sœur ». Avec ce sous-titre « Fragments de vie intérieure », vous dites que c'est une forme d'initiation à la vie intérieure. Peut-être que certains s'y retrouveront davantage. Âme sœur, Albin Michel, Marc, Histoire d'un choc, aux éditions du CERF. On vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera du service, voilà, de l'exclusion au service, ça sera le sous-titre. Et on parcourra à nouveau avec vous la vie de Marc et puis son évangile. Merci, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.